CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui à la technique Bertrand Durand et Guillaume Lacroux, et à France Bleu Poitiers, Pascal Gouvard, Marion Lelay nous assiste, et elle insiste aussi parfois, et Jean-Christophe Pinaza également, et c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Alors, une humeur qui est pleine de promesses printanières après un hiver qui n'en finit pas de faire des heures supplémentaires. Hein, donc, un vrai staccanovis des températures négatives qui ne rechigne pas à travailler plus pour nous les geler plus. Avec son tableau de chasse que l'on connaît, vagues de froid, tempêtes, giboulées à répétition, thermostats fond dans les chaumières peu ou mal isolées qui sont de vrais passoires à kilowattheure. Bref, d'après Météo France, ça fait une trentaine d'années qu'on n'avait pas vu pareille quantité de neige. D'ailleurs, le dernier chic en ville cet hiver, c'est la pelle et le sac à sel griffé Yves Saint-Laurent. Si. Notez qu'un bon coup de gel, ça vous requinque d'une pierre deux coups, la végétation endormie, le chiffre d'affaires des carrossiers et les cours de bourse de nos électriciens gaziers avec leur projet de centrale à gaz cracheuse de CO2 qui fleurissent un peu partout dans nos campagnes. Et puis, pourquoi pas, et oui, ça vous remet en selle les ex-futurs ministrables, option dégraissage de mammouth et négation de l'influence du 4x4 en ville sur le dérèglement climatique. Alors, en attendant, les hirondelles, les jonquilles, les primes verts et les couvertures légères des magazines de mode, je vous propose de fêter le second printemps de la démocratie. C'était dimanche en Irak, un pays où certes on prône l'abstention à coups de tirs de mortier et on n'est pas non plus à quelques bourrages d'urne près, mais où on tente néanmoins de reconstruire un pays aux frontières improbables, un pays fatigué des éternelles querelles de minarets qui plombent la vie de ses habitants. Parce que malgré tous ses défauts, la démocratie, voyez-vous, c'est le seul antidote connu à l'érosion de la diversité dans l'espèce humaine. Pluralisme des goûts et des couleurs, des religions, des opinions, des émissions de radio, hommes et femmes pas encore égaux, petits et grands de toutes les générations, avec chacun notre relation à l'autre et à la nature. Alors, rassurez-vous, chers amis électeurs, loin de nous l'idée de vous influencer en cette veille d'élection. Oh bah non, on n'est pas comme ce monsieur Hulot qui est programmé ce soir exprès par TF1 à la fibre et bétonneau écologique bien connue. Donc, nous ne dirons pas un mot sur la nouvelle équipe 100% pro-OGM de monsieur Barroso, donc le sélectionneur de la Commission européenne qui vient de rempiler pour 5 ans et qui s'apprête à farcir nos campagnes de pommes de terre et d'autres fruits et légumes extraterrestres. On ne mentionnera pas les 660 tonnes d'uranium appauvri qui ont pris la mer hier à Saint-Nazaire direction la Russie, hein, avec les compliments d'EDF et d'Areva. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qu'ils en font, hein, en Russie là-bas. On ne parlera pas non plus de ce nouveau gène de résistance au Grenelle de l'environnement récemment découvert chez tous nos hommes politiques et qui les protège efficacement de toute préoccupation sur le long terme, comme l'avenir de nos forêts mitées par l'étalement urbain, l'espérance de vie de nos sols, de nos rivières dopées aux pesticides, la santé de nos cultivateurs et de nos éleveurs d'algues vertes, de nos éleveurs de cochons. Et comme on disait samedi dernier, dans les allées du Salon de l'agriculture, l'environnement, ça commence parfois à bien faire. Et on est bien d'accord dans cette émission gadget. Oui, forêt, bocage, prairies, terres cultivables, fermes bio, etc. Vous me couvrez le tout de zones pavillonnaires, de quelques bouts d'autoroute. Vous continuez à consommer comme avant et on n'en parle plus. Ah, on va respirer, on va rentrer aujourd'hui dans la forêt. C'est le dossier de CO2, mon amour, avec une fonction certes économique, sociale, citoyenne. Bah oui, parce que l'arbre produit aussi des bulletins de vote. Une autre dimension qui peut être tout à fait aussi spirituelle. Donc il n'y a pas que l'utilitaire dans la vie. On va en parler avec différents invités, dont vous, Alain Perçu. Alain Perçu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes forestier de métier, vous êtes naturaliste, vous enseignez la gestion forestière à l'université de Poitiers et d'Angers. Vous venez d'écrire La forêt naturelle aux éditions Belin dans la collection donc Éveil Nature. Alors on ne va pas remonter vraiment à l'origine parce que les premiers résineux c'était donc issus de fougères géantes, c'était il y a 350 millions d'années. Il y a 130 millions d'années on a nos arbres à graines qui arrivent, donc les ancêtres des feuillus, là on est au Jurassique. Mais là j'irais de nos forêts quasiment contemporaines, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, les forêts contemporaines, celles que l'on peut voir en France, telles que la forêt d'Orléans, la forêt de Fontainebleau, ce sont des forêts qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années, très probablement. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'indicateurs biologiques. Certaines espèces de lichens indiquent que les forêts sont très anciennes.
Oui, et on en a évidemment des plus récentes, comme celle des Landes, hein, qui ont été plantées en gros par Napoléon III.
Voilà, c'était au départ pour fixer d'une part les dunes, limiter l'avancée de la mer, et l'on connaît malheureusement ce que peut faire le changement climatique. Et oui. À propos de progression de la mer. Et puis c'était aussi pour, à l'époque, ce que l'on disait, valoriser des zones réputées facteurs de maladies, etc. Les marais, c'était très très mal vu, donc on pensait que la forêt, c'était beaucoup mieux.
Et quand on s'appelle Sylvie, Sylvain, Sylvestre, on doit sûrement avoir une origine, hein, qui doit traîner. Sylva, la forêt, ça doit être ça. Hein,
absolument, ça vient du latin Sylva. D'ailleurs, ouais. La sylviculture, qui est la science de la foresterie, la façon dont on élève les arbres, sylviculture vient directement du latin Sylva, la sylve.
Alors, on va poursuivre ce voyage avec vous dans quelques instants. Ça, c'est pour vous donner, bien sûr, envie. Auparavant, donc, on rejoindra Jean-Marie Pelt. Et puis, on va débuter en musique grâce à Muriel Pérez qui nous propose... Oh, bah, je parlais de Saint-Laurent, là, c'est plutôt Dior, c'est ça? Oui, oui, Alain Chamfort, oui.
Tout est allé si vite aujourd'hui, grâce à Dieu. Dois-je dire adieu? J'ai un petit bureau à la droite de Dior. Dois-je dire de Dieu? Je ne suis qu'assistant, mais assistant de Dior. C'est à mes yeux. Entrer chaque matin dans le secret des dieux. Pardon des Dior. Je vois les robes comme des fleurs carnivores qui s'enroulent le long des corps dans un silence religieux. Dans les salons feutrés, je croise vos grands dieux. Que dis-je, grand Dior? Femme dont la beauté semble un don de Dior. Que dis-je de Dieu? Je vois passer la duchesse de Windsor. Ava Gardner et Liz Taylor. Des étoiles venant d'autres cieux. Bien plus que les prières et les livres pieux. Les doigts de Dior convaincre le monde qui trop souvent l'ignore de croire en Dieu. Aller si vite aujourd'hui, grâce à Dieu, dois-je dire adieu? J'ai un petit bureau à la droite de Dior, dois-je dire de Dieu? Un beau jour plaise à Dieu, ou peut-être à Dior, sûrement aux deux. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu. Le nouveau Dior, la mode m'accueillera comme le nouveau Dieu. Le nouveau Dior.
hop, ça y est, il est chaud, c'est parti, c'est à nous. Ah ben c'est très bien. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler donc d'économie et de biodiversité à travers donc cet ouvrage « Les dons précieux de la nature » où l'écologie bouscule l'économie. Et oui, parce qu'avant, l'écologie, on s'en fichait, la biodiversité, c'était un gros mot. Bon, maintenant, les choses, quand même, ça a bougé, et obligatoirement parce que nous sommes tous issus de la nature et notre économie fonctionne à partir d'extraction de matières premières. Ça s'appelle la biodiversité aussi. Et à partir de là, on ne peut pas avoir le même œil sur cette nature.
Oui, on a considéré que les dons de la nature étaient illimités, qu'on pouvait y aller carrément, ce qu'on n'a pas manqué de faire, surtout depuis le début de l'ère industrielle, et qu'il n'y avait pas de limite.
On est passé de l'appel au caterpillar, on est passé du filet de pêche au bateau-usine, etc.
Absolument, absolument. Sans du tout tenir compte du fait que les ressources pourraient éventuellement s'épuiser. Et puis, tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait des limites. Alors, on l'a surtout découvert avec le climat. On a tout d'un coup réalisé qu'on avait détraqué le climat. Et que, par conséquent, on ne pouvait pas se permettre de faire tout et n'importe quoi sans qu'il y ait des conséquences très importantes. Donc on ne peut plus considérer aujourd'hui la nature comme une res nullius, pour prendre une expression du droit romain, c'est-à-dire une chose qui n'a pas de valeur. On considérait par exemple que l'eau n'a pas de valeur parce qu'elle est extrêmement abondante, mais que l'or a de la valeur parce qu'il est rare. Donc il y avait l'idée que ce qui est rare est précieux, et ce qui est abondant est sans valeur. Et
d'ailleurs, c'est la rareté qui permet la spéculation.
Tout à fait, absolument. Et comme la nature semblait être illimitée dans ses dons précieux, c'est vraiment le cas de le dire, eh bien, on considérait qu'on pouvait y aller carrément. Je reviens sur le rapport Stern qui avait montré que si on ne faisait pas très attention en ce qui concerne les dégagements de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre, il y aurait pour l'économie une catastrophe sans précédent qui serait égale aux catastrophes dues aux deux guerres mondiales du XXe siècle et en plus à la crise de 1929.
Ça fait l'effet d'une bombe parce que cet homme-là donc est un économiste. C'était donc en 2006. Puis il a dit que le produit mondial brut annuel se casserait la figure de 5 à 20% si on ne faisait rien. Alors que si on mettait 1% de la somme de notre PIB tous les ans dans cette affaire de réchauffement climatique, on pourrait au moins limiter la casse.
C'est absolument ça. Ça a été très entendu, très remarqué et ça a mis en émoi le monde politique, comme on l'a vu malheureusement à Copenhague, où cet émoi était un émoi... C'était moi d'abord. Voilà. Donc Copenhague a été très fidèle à l'image de la société, aussi par la profusion et la confusion qui a régné, voilà. Puisque nous vivons dans la profusion et dans la confusion. Tout le monde disant n'importe quoi à propos de n'importe quoi, n'importe quand, sur n'importe quel support.
Oui, hein, comprenez votre souffle.
C'est ça.
Et ne vous faites pas de mal.
Alors, les biologistes se sont inspirés du travail qu'ont fait les climatologues et ils ont eux aussi étudié les écosystèmes de la planète pour essayer de percevoir les services rendus et les limites. Alors, en ce qui concerne les services rendus, tout le monde comprend bien que la nature nous offre ce que nous avons besoin pour vivre. L'oxygène que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons, les médicaments que nous utilisons, les produits cosmétiques, le bois, les fibres, etc.
Même les animaux domestiques.
Les animaux domestiques, évidemment. Tout ça nous vient de la nature, y compris les animaux de compagnie.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle les services de prélèvement.
C'est ça, c'est ce que nous prenons sur la nature. Alors, il ne faut pas prendre trop, évidemment, sinon la limite apparaît.
À consommer avec beaucoup de modération.
Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les services de régulation. Alors, les services de régulation, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des services dont nous n'avons pas conscience du tout. Pour nous, une forêt, eh bien, c'est du bois. Ça se mesure en serre de bois. Mon ami si cher, Pierre Rabhi, dit qu'un jour, un soir, il regardait le coucher de soleil dans son Ardèche, où il fait de l'agriculture biologique, et il y avait un chêne magnifique. Il était avec un ami, et il disait... regarde. Et l'ami a dit, oh oui, ça fait 3 serres de bois. Bon, c'est comme ça que nous apprécions, effectivement, les choses par rapport à une forêt. Mais une forêt, ce n'est pas que ça. Une forêt, ça permet à l'eau de pluie de s'égoutter lentement d'imprégner le sol, de recharger les nappes souterraines.
D'éviter les érosions.
Et du coup, on a aussi le fait que s'il n'y avait pas la forêt, en effet, la pluie frapperait fort le sol et emporterait le sol, et il y aurait érosion, il y aurait aussi pollution des rivières. Bon, l'eau dans une forêt se trouve naturellement dépolluée par les bactéries qui travaillent au niveau des racines de la forêt. L'air se trouve dépollué aussi, parce qu'on sait aujourd'hui que les arbres et que les plantes, et que les plantes d'appartement en particulier, peuvent dépolluer l'air. La forêt fixe du gaz carbonique et par conséquent limite le réchauffement des gaz à effet de serre. C'est un argument qui va permettre de protéger mieux les grandes forêts équatoriales parce qu'on a pris conscience de cet éminent service qu'elles rendent. Bon, on peut continuer. Quand on va
l'épuration des eaux par les marais.
Tout à fait. Quand on va dans une forêt, on sent ce calme, cette régénération en profondeur de notre être. Donc là, nous en arrivons à ce qu'on a appelé les services culturels.
Donc on a les services de prélèvement, les services de régulation et donc les services culturels.
Oui, alors qu'ils sont des services récréatifs. On va se promener en forêt.
En quad ou en 4x4 ?
En 4x4, de préférence, oui. Tout l'écotourisme tourne autour de ça. Dans les forêts équatoriales, on va s'y promener en pirogue parce qu'on ne peut pas pénétrer, mais on est dans le milieu forestier. Il y a même des services spirituels puisque l'hindouisme est très lié aux forêts. C'est une religion qui est très liée par ses cultes à la forêt. Bouddha, c'est le bouddhisme, a eu son illumination sous un bamian, qui est aussi un grand arbre. Chez les vaudous, il y a des bois sacrés où poussent les plantes qui permettent l'initiation. Donc il y a une quantité de services qui sont rendus par une forêt. Eh bien, il en est de même de tous les écosystèmes. Or, une étude approfondie menée par des milliers de scientifiques sous l'égide de l'ONU, qui a été publiée il y a quelques années, a montré que 60% des écosystèmes de la Terre étaient déjà très gravement perturbés et menacés, et que nous détruisons cette capacité de service qui doit nous être rendue. Donc l'idée, c'est de ne pas protéger seulement les espèces séparément, mais protéger les écosystèmes dans lesquels elles vivent. L'exemple de l'orang-outan, on a déjà évoqué, est typique de ce point de vue. Si les forêts disparaissent, l'orang-outan disparaît aussi, parce qu'il disparaît avec le milieu dans lequel il peut vivre, il trouve sa nourriture et la satisfaction de ses besoins.
Et pour l'homme matérialiste occidental, il faut donner un prix à la nature, parce que c'est de cette manière-là qu'il comprendra les choses. Alors ça va choquer évidemment beaucoup d'écologistes, mais la réalité, elle est quand même là aujourd'hui. Et là, c'est beaucoup plus difficile de donner, on va dire, un prix à la tonne de grenouille jaune qu'à la tonne de carbone. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on planche aujourd'hui.
Oui, on planche là-dessus aujourd'hui. On a évoqué ce problème pour la catastrophe de l'Erika. Oui. Beaucoup d'oiseaux ont disparu et beaucoup de bénévoles ont travaillé pour démazouter les oiseaux. Alors évidemment, tout ça a un prix, mais l'oiseau lui-même a un prix. Alors on a évalué le prix d'un oiseau et on a donné des évaluations qui sont très variables selon la rareté de l'oiseau ou selon la capacité de le remettre dans son milieu pour des oiseaux qu'on sait élever. Il y a des oiseaux qu'on ne sait pas élever. Et ça, c'est un beau challenge pour notre ami Bougrain-Dubourg, qui est le patron de la Ligue de protection des oiseaux, et qui défend les oiseaux en disant « Les oiseaux n'ont pas de prix, donnons-leur donc un prix oui. ». Eh bien oui, c'est le jeu de mots sur prix. Tout le monde a bien compris, n'est-ce pas? Compris.
Et donc, il y a un rapport là qui est paru par Bernard Chevassieu-Louis, qui avait été missionné pour fixer la valeur économique de la biodiversité.
Oui, c'est un rapport absolument remarquable. Monsieur Chevassieu-Louis a fait un travail avec un grand nombre d'experts. Et maintenant, c'est vrai qu'on est rentré dans une époque où il n'y aura plus seulement une discussion sur le prix de la tonne de carbone, mais il y aura maintenant une discussion sur la valeur en monnaie sonnante et trébuchante des objets, entre guillemets, de la nature, des êtres vivants de la nature.
Mais est-ce qu'on ne fait pas le jeu, on va dire, de l'utilitarisme anglo-saxon, pour lequel n'a de valeur que ce qui est immédiatement utile?
Ah ben bien, tout à fait. Alors, ça me désole. Si vous me demandez ce que je pense de ça, je pense que pour en être arrivé là, il faut que nous soyons tombés bien bas. Ben oui, il va de soi que la nature est précieuse au point qu'elle n'a pas de prix. Pour le titre du livre, les dons précieux de la nature, on a hésité sur le titre, est-ce qu'on met précieux ?
Oui, exact, on a eu ce débat.
Hein. On a eu ce débat. Puis on avait même pensé à un moment donné les dons gracieux, mais c'était encore plus sophistiqué, ça n'allait pas du tout.
J'étais pour les dons de la nature.
Les dons de la nature, oui, c'est ça, et c'était plus simple. Mais ces dons sont des dons effectivement très précieux, et la nature, elle est sans prix, puisqu'on ne peut pas vivre sans, donc nous n'existons pas sans la nature. Alors qu'il faille lui donner maintenant un prix, montre à quel point nous avons sombré dans le monde de l'utilitarisme anglo-saxon, où n'existe que ce qui vaut quelque chose.
Voilà. Donc, c'était notre grande séquence, la décadence de l'avenir.
C'est ça, oui.
Et donc, Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine avec les dons donc, précieux de la nature. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Yellow is the color of my true love's here in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, I love the best. Blue's the color of the sky, in the morning, when we rise. In the morning, when we rise, that's the time, I love the best. Green's the color of the sparkling corn. In the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time. That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low.
Une forêt. Avec ça, t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. La forêt, c'est là qu'il faut investir.
Où ça?
Dans le nord. Mais faut se décider vite.
Et qu'est-ce que tu comptes en faire de cette forêt?
Du bois à brûler.
Ah.
Quoi? Ah, y a pas que les éoliennes. Le bois, c'est de l'énergie, c'est bio, ça pollue pas. Puis c'est encore abordable, mais pas pour longtemps. Hein. Ça va grimper, je te le dis. D'ailleurs, ça grimpe déjà.
Je vais te chercher ta brosse à dents.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Alors ne cherchez pas, ce sont des petits plaisirs qu'on vous offre comme ça aussi après Donovan. C'était donc un extrait de Belle Amie de Claude Chabrol. Donc vous l'avez compris, dossier forêt aujourd'hui, parce que cette fameuse forêt, elle dépasse bien les 25% de surface de notre territoire, avec quand même, on l'a vu, une tendance historique de plus d'un siècle, parce que depuis plus d'un siècle, la forêt augmentait, mais là, elle a cessé de gagner du terrain après donc cette progression continue de plus de 150 ans. Bon, urbanisation, ça fait aussi partie partie des problèmes. Donc on a quand même 16 millions d'hectares aujourd'hui hein, de forêt en France. On va rajouter les 8 millions aussi en Guyane, ce qui n'est pas neutre du tout. Et puis une grande part pour le privé, une grande part de forêt domaniale. On aura quelqu'un de l'ONF tout à l'heure, nous rejoindrons François Blanc. Et puis d'autre part des collectivités. Alors, on parle avec vous, Alain Persuit. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, La forêt donc naturelle. On ne va pas revenir sur toute l'histoire parce qu'on sait qu'au moment de la Gaule, on a cette image que les enfants ont en tête, c'est-à-dire qu'un écureuil pouvait traverser de branche en branche la forêt. Au Moyen-Âge, c'était une période de grand défrichement. Juste rappeler quand même qu'à la fin du 19e siècle, on n'avait que 8 millions d'hectares, donc on avait beaucoup ratiboisé à l'aperçu.
On avait beaucoup coupé de forêt, effectivement, puisque pendant quelques siècles, malheureusement, les guerres et les luttes entre la France et l'Angleterre ont fait consommer une quantité absolument incroyable de chêne pour fabriquer les navires, la marine de guerre.
Oui. Et un homme comme Colbert, est-ce qu'on peut dire qu'il pratiquait le développement soutenable avant les autres ? Ce n'était pas forcément pour des raisons écologiques, mais quand même, il pensait à la marine de guerre aussi.
Absolument. L'ordonnance de 1669 de Colbert a été peut-être un des premiers textes législatifs qui a permis plus tard à la sylviculture de naître à la fin du 19e siècle à peu près.
Il y a une notion qui est extrêmement importante quand on est forestier, c'est celle du temps. Je dis ça parce qu'on est vraiment dans le court-termisme habituel, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est quand même ça. Et là, non, c'est-à-dire que si on fait des bêtises, ça va peut-être se voir pendant un siècle, deux siècles. Donc il faut avoir cette notion de temps quand on est forestier.
Voilà, les erreurs et les fautes durent extrêmement longtemps, parfois même presque la durée de vie d'une forêt, et puis les bons choix durent eux aussi très très longtemps. Donc aucune des actions du forestier n'est innocente en cette matière quand on agit, quand on intervient, quand on modifie les peuplements, quand on décide de telle ou telle forme d'aménagement.
Et on parlera du réchauffement climatique qui va peut-être aussi changer, enfin qui va sûrement même aussi changer la donne en matière de forêt. Parlons quand même de biodiversité, pas simplement parce que c'est l'année, mais parce que ça me paraît une évidence. Alors, est-ce qu'une forêt est une simple société, on va dire, d'arbres ?
Alors là, vous soulevez une bonne question. Jean-Marie Pelt l'a dit tout à l'heure lorsqu'il évoquait quelqu'un qui, regardant un chêne, parlait d'austère. Une forêt ne peut pas se résumer à sa simple dimension d'arbres, qui sont certes les éléments dominants, mais sous les arbres, à côté des arbres, eh bien, il y a tout un petit peuple de plumes et de poils. Il y a une vie animale et végétale étroitement imbriquée, dont l'existence est absolument indispensable, y compris à celle des arbres. En général, les gens savent peu qu'en forêt, les géants que sont les arbres dépendent de nains que sont les champignons mycorhiziens présents dans le sol.
Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on parle sans arrêt de lutte et il y a aussi cette fameuse coopération que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que des arbres entre eux, moi je me souviens de Michel Tournier qui racontait cette histoire en disant « lorsque je pénètre dans une forêt, on sent comme une espèce de haine entre les arbres parce que c'est de la rivalité, c'est de la compétition pour aller cueillir le plus de lumière possible et faire de la photosynthèse. » Mais il y a aussi tout cet univers souterrain qui est drôlement important.
Tout à fait. Il y a aussi en forêt de l'entraide et de la solidarité, pas seulement une lutte entre organismes pour la lumière et pour l'espace. Il y a des choses qui se passent en forêt et qui nous sont extrêmement utiles à observer, puisque, après tout, ça nous permet peut-être aussi de nous regarder différemment.
Alors parlons maintenant de l'usine à oxygène et aussi du puits de carbone. Ça fait partie de la biodiversité. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Usine à oxygène, ça stocke, ça relâche, racontez-nous.
Alors, usine à oxygène, oui et non, puisque les arbres, effectivement, via la miraculeuse photosynthèse, chaque jour dégagent de l'oxygène, produisent de l'oxygène. L'arbre est un organisme vivant. La nuit, il rejette du gaz carbonique. Mmh. Mais disons que, grosso modo, la balance penche d'un côté très favorable dans le sens de la fourniture d'oxygène. Ceci étant, on a dit pendant très longtemps, par rapport au changement climatique et aux nécessaires mesures à prendre, que seules les jeunes forêts comptaient, puisque une jeune forêt, un hectare, stocke à peu près 2 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Donc c'était vraiment les jeunes forêts qui étaient importantes à comptabiliser dans tous les processus et négociations de Kyoto, etc. En fait, on s'est aperçu que l'essentiel du gaz carbonique était stocké dans le sol des forêts, dans l'humus. Et donc les vieilles forêts ont un rôle tout aussi primordial à jouer dans la lutte contre le changement climatique.
Et ça, c'est assez récent. Hein. On a eu un article dans Nature qui a posé le problème de cette affaire-là.
Tout à fait. On était parti d'études d'un très grand écologiste qui s'appelait Odum et qui avait publié beaucoup de travaux. Mais lui ne s'était intéressé pratiquement qu'à la partie visible des arbres, le bois, les branches, le tronc, la grume. Et il avait un petit peu ignoré tout ce qui se passe à l'intérieur des sols.
Lorsque l'on parle du puits de carbone, que peut-on dire alors aussi ? Parce que souvent on dit que c'est neutre pour le climat, cette affaire.
Alors oui et non aussi, c'est vrai qu'un arbre qui a stocké du carbone toute sa vie, si on le brûle, il va rejeter ce carbone. Maintenant, si on utilise cet arbre pour faire des meubles ou de la charpente, eh bien, pendant le nombre d'années que dureront les meubles et la charpente, le gaz carbonique restera stocké. Ce qu'il faut dire, c'est que le changement climatique, et notamment en 2003, a fait en sorte que, par le biais de la canicule, la forêt n'a plus stocké de gaz carbonique. Elle en a rejeté parce que la photosynthèse avait arrêté.
C'est-à-dire qu'au départ, la machine va fonctionner à plein, et puis à un moment, il y a un effet de saturation ?
Tout à fait, oui. De la même façon que les océans, qui sont des grands stockeurs de gaz carbonique, ont leurs propres limites. On ne peut pas, ils ne peuvent pas accumuler comme ça indéfiniment des quantités notables, parce que cela finit par avoir des influences tout à fait négatives sur les organismes vivants.
Alors, je le disais tout à l'heure, là, on va avoir différentes fonctions que l'on connaît, donc des fonctions économiques, des fonctions sociales, des fonctions aussi de rêve, fort heureusement, avec cette forêt. Moi, je vous propose de rencontrer un autre forestier que vous connaissez dans cette émission, qui s'appelle Yves Berneron. Nous allons dans ce département de Savoie, nous allons aller en Haute-Maurienne. L'homme habite du côté de Lens-le-Villard, on a fait déjà un certain nombre de sujets. Et puis comme il est forestier avant toute chose, et aussi raconteur, c'est un formidable raconteur, Yves. Et bien, on est parti avec lui dans la forêt pour parler de la gestion des forêts de montagne et puis d'un arbre qu'il adore, qui est le mélèze.
La forêt est un ensemble de choses, ici surtout, où les essences forestières sont diverses, toutes résineuses bien sûr, mais diverses. On va du pin accroché jusqu'au pin cimbreau, la rolle en haute altitude, du sapin à basse altitude autour des villages de Lens-le-Bourg, au mélèze qui, lui, va encore plus haut que la rolle. Donc, une forêt composée qu'il faut respecter. Et il y a des équilibres à l'intérieur de cette forêt qu'il faut absolument respecter.
Quels sont les codes de bonne conduite d'une forêt ?
Alors, la bonne conduite d'une forêt, c'est d'avoir dans la forêt des arbres de tous âges, au même endroit. Si on n'a que des grands arbres, des arbres qui ont atteint leur maturité, qui font 40, 30, 40 mètres de haut, ils vont être fragilisés par la chute de neige, par le coup de vent. Si un coup de vent arrive, ça va renverser toute la forêt. Et on va rester pendant des années et des années avec un trou dans la forêt. Il ne faut pas laisser de vide. On le sait bien, la nature a horreur du vide. Si on le crée nous-mêmes, les hommes, on crée une catastrophe. Donc il faut qu'il y ait des arbres de tous âges au même endroit. C'est ce qu'on appelle le jardinage de la forêt. Mmh. Et il y a plusieurs manières de jardiner. Soit on le fait pied à pied, soit on le fait par tâche. Et on voit là justement devant nous, le forestier a entrepris, il y a quelques années en arrière, de créer une grande tâche dans la forêt en abattant tous les arbres sur 30 ou 40 mètres de diamètre, ouais, à tout casser. Et là, la lumière arrive au sol d'une manière forte et va provoquer la régénération. Et c'est ce qu'on voit, c'est couvert de jeunes mélèzes parce qu'on a laissé le soleil pénétrer jusqu'au sol. Pour faire un arbre ici, il faut un minimum de 100 ans, minimum. Ouais. On ne peut pas exploiter un arbre à moins de 100 ans.
Ah, c'est merveilleux parce qu'on chemine sous ces frondaisons et bah, qui sont légères parce qu'on a beaucoup de mélèzes qui sont là, donc qui laissent passer la lumière, qui laissent passer la vie. Ah, la pluie se met à tomber. Heureusement qu'on est en forêt, Yves. Tenez, on va se poser là devant un beau mélèze que vous affectionnez. Waouh ! Attendez, là, on a une cascade qui ravine et qui fait son chemin d'eau. Berneron, parlons de cet arbre que vous affectionnez, donc le mélèze.
C'est un arbre formidable, c'est vrai, c'est vraiment un arbre de la montagne. C'est peut-être l'arbre qui illustre le mieux la vallée de Haute-Maurienne, le mélèze. Parce que d'abord, c'est un arbre de lumière. Sans lumière, le mélèze est incapable de pousser. C'est pour ça qu'on le trouve d'une manière beaucoup plus rare dans les Alpes du Nord, très au nord, où il y a moins de lumière qu'ici. Donc il a besoin de cette lumière de la Haute-Maurienne. Il se dresse sur 35 mètres de haut. C'est un arbre impressionnant, d'une beauté rare. Et puis, c'est l'arbre de la montagne parce qu'il perd ses aiguilles en hiver. Et ça, c'est merveilleux pour lui. Il n'a plus besoin de travailler pour lutter contre le poids de la neige, qui ne s'accroche pas. il n'y a plus d'aiguille pour le retenir. Il n'a pas besoin de lutter contre le vent. Le vent a une prise extraordinaire dans les aiguilles des arbres, dans les houppiers des arbres, et provoque la chute des arbres quand il est très violent. Il n'a pas besoin de travailler dans la terre pour faire monter à ses aiguilles un minimum de sève de survie. Donc, il est au repos total. Et ça, ça en fait un arbre super solide qui ressemble étrangement au montagnard qui vit ici d'ailleurs. Alors le mélèze aussi, c'est ce feuillage de l'automne, ces aiguilles d'automne qui deviennent dorées complètement, qui vont devenir miel dans quelques temps, puis rouille juste avant qu'elles ne tombent. Et les aiguilles vont tapisser tous les sentiers de la montagne. Et on aura comme ça un serpent continu d'aiguilles d'or tout au travers de la montagne qu'on va retrouver au printemps et l'été prochain. Et ça aussi, il est là pour conduire le pas des hommes.
Cet arbre, on l'a compris, est extrêmement solide. Qu'est-ce que l'on en fait ?
C'est un arbre qui est très très dur. On l'appelle un peu le chêne de la montagne. Il ne se rompt pas. C'est pour ça qu'on en a toujours fait les charpentes de nos maisons. Le mélèze est extrêmement résineux. Donc les petites bêtes qui attaquent les arbres dans les plaines, entre autres, ne viennent pas ici. Et puis, il y a trop de résine. Donc, il ne touche pas au mélèze. Alors, le mélèze, c'est quand même un bois de résistance, un bois qui ne pourrit pas. C'est le bois qui des balcons, c'est le bois des portes, le bois des fenêtres. J'ai démonté de vieilles charpentes qui avaient peut-être 400 ans et plus, qui étaient dures comme du fer. Rien n'avait changé.
Est-ce que c'est aussi un arbre qui soigne ?
Oui, évidemment. Les vieux utilisaient la résine de mélèze pour faire les plâtres sur les fractures. Alors, ils mettaient quelques bandes de tissu, recouvraient tout ça de résine de mélèze, puis encore une bande de tissu, et ça durcit, ça devient très dur, aussi dur que du plâtre. Mais par contre, le mélèze, la résine de mélèze sait ce qu'il y a dessous elle, et quand cette coque de résine commençait à casser, c'est que la fracture était réparée.
Et ça, c'était...
Et c'était confirmé.
C'était confirmé.
Absolument.
Autre cascade, voilà. Pendant que nous devisons sur le... Enfin, surtout vous, sur le mélèze. Bon, c'est aussi un arbre où, j'imagine, il doit pousser quelques légendes au bout de ses ramures.
Oui. Alors, il y a une étrange légende. Ça s'est passé à l'automne. Les premiers vents d'hiver arrivaient, froids, durs, les froids durs de novembre, terribles à supporter, bien plus que celles de janvier. Et les oiseaux s'étaient réfugiés dans un mélèze. Le mélèze, du haut de ses 30 ou 40 mètres, hautain, moi, l'arbre de la lumière, je ne vais pas abriter cette bande d'oiseaux, il les a chassés. Alors, la nature, mécontente, l'a dépouillé de ses aiguilles, en disant, tu subiras tous les hivers la froidure du temps, puisque tu n'as pas voulu protéger les oiseaux.
Ah ben, votre chienne est toujours là, alors à la fois elle nous écoute. Ah, petit oiseau.
Un gobe-mouche noir. Voilà.
Qui est allé prendre une boule de quel arbre ?
Tamerisier, un buisson.
Et ça, ces petites boules-là sont peut-être pas bonnes pour nous, je sais pas
ou... Non.
Bah, contrairement au sorbier des oiseleurs, qui est bon pour les deux, pour les oiseaux et pour les hommes.
Oui, le sorbier des oiseleurs est bon pour les oiseaux, qui s'en nourrissent largement, mais des hommes aussi, qui, d'une part, font de la confiture avec ses fruits, ou même parfois de l'alcool, font macérer pour avoir un alcool assez goûteux, et puis se servait surtout des fruits pour attirer les oiseaux dans des pièges.
Ah, oui.
Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le sorbier des oiseleurs.
Oui. Et non pas le sorbier des oiseaux.
L'oiseleur, qui est un nom charmant,
oui.
Hein, étaient tout simplement des tueurs d'oiseaux.
Qu'est-ce qui peut vous inquiéter aujourd'hui ?
Ce qui m'inquiète, c'est que moi, je connais bien les forestiers locaux, que ce sont tous des passionnés de la forêt, des amoureux de la forêt, et qu'on, à mon avis, on ne leur laisse pas faire le travail tel qu'ils voudraient le faire. On en fait des producteurs de cellulose. On en fait des organisateurs de chantiers, de chemins, de ponts, même pour le parc national de la Vanoise.
Mais ils font un peu de travaux publics de montagne.
On fait des travaux publics de montagne. Et je crois que ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on oblige le forestier à être plus devant son ordinateur que devant ses arbres. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est tellement fort, tellement bon de vivre auprès des arbres. Et puis, il perd une vue générale de la forêt qu'il n'a plus. Parce que quand on l'envoie dans la forêt marquer les arbres qui vont devoir être abattus, il faut qu'ils produisent du volume.
Oui.
Alors, il n'a plus le, il n'a plus cette passion de dire ça fait rien, si on produit un peu moins, il faut que la forêt vive bien, se régénère bien. Alors ça va, à mon avis, on peut aller vers une forêt qui ne sera plus aussi forte, aussi bien adaptée à l'altitude, à la pente, à la neige qu'elle l'est aujourd'hui.
Ça, Yves Bernerand, lui manque pas de passion. Hein. On parle bien des dossiers de la forêt. Aujourd'hui, notre dossier dans CO2 Mon Amour, donc sur France Inter, avec cette balade. Et puis donc, alors je sais pas, Alain Persuit, vous êtes donc à France Bleu à Poitiers. Peut-être petite réaction par rapport à ce qu'a dit Yves Bernerand.
Je crois qu'on ne peut que partager, lorsqu'on aime la forêt et les arbres, sa propre sensibilité. Je veux dire, on peut difficilement enlever la dimension spirituelle ou la dimension esthétique, artistique, que peuvent inspirer la forêt. C'est peut-être encore un des rares endroits dans ce monde où l'on peut se ressourcer un petit peu tant qu'on le peut.
C'est un homme qui fait toujours très attention lorsqu'il marche. Il reste vraiment sur les sentiers parce qu'il connaît la valeur de l'humus. Quelques mots rapidement sur l'humus.
600 ans pour faire un sol à partir de la roche-mère, donc c'est une histoire de siècles et une histoire de presque éternité. Lorsqu'on abîme un sol, on va l'abîmer pendant extrêmement longtemps. Et c'est vrai que bien, tout vient du sol, tout vient de là. La capacité de la forêt de se régénérer ne peut venir que d'un sol en bon état.
On va poursuivre notre voyage avec vous. On va rejoindre aussi François Blanc, donc de l'ONF. Auparavant, un petit Mistral gagnant pour tout le monde, un petit coup de roue doudou, on y va.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Piqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Car ici on pense qu'à la rentabilité. Oui, est assez.
Entrez dans la danse, oui. Voyez comme on danse.
Sautez, dansez, tronçonnez qui vous voudrez.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Eh oui, avec le facétieux Vincent Malone, on ne s'en lasse pas. Voilà, alors nous avons en ligne François Blanc qui nous fait la gentillesse d'être avec nous, directeur territorial Île-de-France Nord-Ouest de l'ONF, donc l'Office National des Forêts. François Blanc, bonjour.
Bonjour.
Alors, faisons un petit peu le point donc, aussi avec cette ONF. Je le disais tout à l'heure, on a principalement, on va dire, de la forêt privée, hein, donc en France, à plus de à peu près 70%. Et puis, donc, vous gérez les forêts domaniales. Qu'est-ce que vous gérez d'autre, que l'on comprenne bien quel est votre rôle?
Alors, l'Office national des forêts gère, bien sûr, donc, les forêts domaniales, mais aussi les forêts des collectivités. Mmh. Cet ensemble, d'ailleurs, des forêts publiques, représente donc en effet un peu plus de 5 millions d'hectares de forêt donc en France. D'accord. 4,7 millions d'hectares de forêt en France. Voilà, et l'Office a effectivement cette mission de gérer durablement ces forêts publiques, mais aussi l'Office intervient pour des services environnementaux, diverses prestations.
Alors ça, on va y revenir, parce que quand vous dites gérer durablement, on va dire de façon soutenable, bon, c'est vrai que l'ONF, c'est un organisme qui est déficitaire, l'État a accepté de le renflouer, c'est son rôle, d'accord, mais avec obligation d'avoir une productivité nettement accrue. Donc, votre fils doit vivre de sa production, de prestations de services, on l'a entendu aussi, donc avec Yves Berneron qui connaît très bien l'affaire. Comment on arrive à marier, on va dire, biodiversité d'un côté et puis le fait que vous soyez obligé de quand même de faire du volume et de sortir du mètre cube, dites-nous.
Alors, tout d'abord, bon, il convient de bien préciser que le volume qui est récolté en forêt correspond à un volume qui est réfléchi, hein, qui a été analysé, qui dépend des plans de gestion qui ont été réalisés. Cette récolte est bien inférieure donc à la production biologique de la forêt. Hein. Donc nous sommes dans une récolte qui est donc certes volontaire, mais qui est raisonnée. Et bien entendu, cette mobilisation des bois doit se faire simultanément en s'attachant à bien protéger la biodiversité, à mieux protéger la biodiversité, mais aussi tous les services environnementaux dont parlait Jean-Marie Pelt tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, nos plans de gestion des forêts sont réalisés en réfléchissant l'ensemble des fonctions qu'assure la forêt aussi bien.
Mais alors, en même temps, pardonnez-moi, parce que sans faire évidemment de langue de bois, c'est très amusant, mais on voit bien que donc, le rôle des forestiers, c'est donc aussi de faire des martelages. On se doute bien qu'une forêt doit être gérée, là n'est pas le problème. Mais très souvent, alors même s'il y a beaucoup d'affectifs aussi de la part des forestiers, on leur dit, attendez, nous maintenant, notre boulot, il est quand même beaucoup en train de changer. Quoi. Donc, à la fois, on a moins de personnel, bon, c'est une chose, mais en plus, on a le sentiment qu'on décapitalise un peu nos forêts. Réalité, intox, c'est où on en est de votre point de vue?
Alors, en fait, donc il n'y a pas effectivement de décapitalisation. Il y a effectivement des évolutions de notre sylviculture, dont on parlait tout à l'heure, avec une certaine forme de dynamisation. On peut prendre, par exemple, l'exemple du hêtre, qui illustre assez bien cette évolution. Donc autrefois, il était récolté à un âge de 120-140 ans, hein, pour des diamètres de 55-60 cm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, nous conduisons une sylviculture qui vise à produire, alors notamment sur les stations favorables aux hêtres, des hêtres de 65-70 cm de très bonne qualité technologique à bois blanc et qui sont récoltés aujourd'hui en 90 ans. Mmh. Donc on a effectivement là une sylviculture plus dynamique.
Bon, alors de toute façon, d'une manière générale, vous devez fonctionner, ce que l'on comprend, par la vente du bois, par des prestations donc de services, par des services donc aussi écologiques. Alain Persuit, alors donc on le rappelle, hein, la majorité aujourd'hui de la forêt française est quand même privée, à peu près à 75%, et donc l'ONF travaille à la fois sur les forêts domaniales et aussi la gestion des forêts des collectivités, pour que l'on comprenne bien les choses. Quel est un peu votre sentiment, vous aussi, Alain Persuit? Vous travaillez davantage pour le privé, mais quel est votre sentiment?
Ben, je pense que effectivement, toutes les forêts sont gérées avec des documents qu'on appelle maintenant des documents de gestion durable. Disons qu'il est difficile d'avoir un avis valable pour l'ensemble du territoire français. Il y a des endroits où la forêt est peu ou plus exploitée parce que les propriétaires sont âgés parce qu'on est des situations de topographiques difficiles, et puis des endroits où la forêt est très exploitée et d'une manière extrêmement organisée, comme par exemple dans la forêt des Landes. Donc la situation est très fluctuante d'une région à l'autre, je le pense.
Lorsque l'on dit une forêt propre et bien gérée, est-ce une idée reçue ou non ?
C'est une idée reçue, oui, effectivement, parce que dans l'esprit de nombre de gens encore, malheureusement, une forêt propre, c'est une forêt qui fait l'objet d'attention louable. En fait, si vous avez une forêt sans sous-étage, sans ronces, sans lierre et sans bois mort, ce sont des forêts qui peuvent être productives pendant quelques années, mais qui seraient extrêmement fragiles et soumises à tout un tas d'aléas biologiques ou climatiques.
Aujourd'hui, François Blanc, donc je le rappelle, de l'ONF, on a aussi à la fois le bois construction et le bois énergie. Si je clique sur la case bois construction, on a à peu près 4% aujourd'hui seulement de nos forêts, de nos maisons qui sont en bois, et on se rend compte que la provenance n'est pas du tout, très peu, et émane des forêts françaises. Ça vient des forêts du Grand Nord. Là, vous avez un rôle à jouer aussi à l'ONF ?
Bien entendu, l'Office, mais pas l'Office seul, l'Office avec ses partenaires de la filière bois, a un rôle important à jouer. Il s'agit en effet, en tout cas pour nous, de bien moderniser toutes nos relations avec les partenaires de la filière pour faire avancer cette filière bois française.
Qu'est-ce qui manque ? Non mais attendez, allons-y, je veux dire, vous aussi, à l'aperçu, qu'est-ce qui manque ? Parce que moi, je ne suis pas persuadé, je ne sais pas du tout en tant que citoyen s'il y a une véritable politique de la forêt. Est-ce qu'on est dans du court terme ? Est-ce qu'on se projette très très loin ? Quel est un peu votre sentiment, Alain Persuis ?
Ben, je pense qu'on est on ne peut pas être autrement que dans le long terme quand on parle de forêt. Malheureusement, avoir de moins en moins de personnel, par exemple dans les centres régionaux de la propriété forestière, pour produire plus de bois, à un moment donné ou un autre, peut-être que la situation va se révéler délicate.
Est-ce que bois énergie d'un côté et bois de construction, on le rappelle, hein, les maisons aussi en bois, on se dit que c'est complètement dingue d'avoir un pays énormément forestier, avec des gens vraiment de qualité, et puis que ce bois vienne du Grand Nord. Alors, bon, si on va dans le Jura, on verra qu'on a à peu près 25% des maisons en bois avec du bois quand même qui vient local. Mais on a quand même maintenant ces deux données, c'est-à-dire qu'on a le bois énergie, hein, qui est donc la biomasse, c'est la première des énergies renouvelables aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas déstructurer nos forêts avec trop de demandes, par exemple ?
Alors, il y a un risque potentiel. Le bois énergie, si effectivement il doit conduire à oublier les règles de la sylviculture, c'est-à-dire le souci de produire du bois de qualité, ça peut poser des difficultés. Si on sort tous les rémanents de forêts pour faire de la plaquette forestière, eh bien, on va poser des difficultés à l'existence d'un certain nombre d'insectes et des oiseaux qui s'en nourrissent. Donc, le bois énergie, c'est comme tout. C'est à la fois intéressant et puis il y a des risques de dérive.
Comment on gère ça au sein de l'ONF, François Blanc ? Parce que vous aussi, vous allez vendre, je pense que vous avez une filiale qui s'appelle ONF Énergie. Comment on travaille le sujet ?
Tout à fait, je partage ce qui vient d'être dit, tout ceci doit être régulé. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de mobiliser les petits bois vers le bois énergie. Il faut le faire évidemment à hauteur de ce qui peut être produit par la forêt. Là encore une fois, ce sont les plans de gestion qui vont pouvoir nous indiquer les volumes qui peuvent être utilisés vers le bois énergie.
On est encore balbutiant, on commence à réunir tout ça. Ça passera, je ne sais pas, au niveau des régions, c'est pas pour être dans l'actualité, mais je veux dire, c'est quoi enfin, ces plans-là, c'est à quel niveau que ça se passe ?
Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup au niveau des régions, donc c'est balbutiant, ça progresse assez vite. Hein. Aujourd'hui, de nombreuses grandes chaufferies collectives ou grands centres de production d'énergie voient le jour. La filière d'ailleurs doit se structurer hein, à la fois pour pouvoir apporter l'offre dans des conditions.
On sent bien quels sont donc encore aujourd'hui les manques aujourd'hui de l'ensemble de la profession. Très vite, parce qu'on a peu de temps à l'imperçu, réchauffement climatique, les aires de répartition, c'est en train de bouger, on voit des hêtres qui remontent, des pins maritimes aussi, des chênes verts qui remontent. Où en est-on ?
Oui, ça progresse. Il y a des observatoires qui sont en train de se constituer avec l'Institut pour le développement forestier, avec l'INRA. On sait que le chêne vert remonte maintenant au nord de la Loire. On sait que le hêtre va pratiquement disparaître une grande partie de l'ouest de la France et que même le pin maritime commence à progresser aussi, en même temps d'ailleurs qu'un certain nombre de maladies ou de parasites. Donc en moins d'une durée de vie d'arbre, le paysage forestier risque même si là, on n'est pas des devins, risque de se voir profondément bouleversé d'ici à l'horizon 2100.
Merci à vous, Alain Persuit, La Forêt naturelle aux éditions Belin. Merci à vous aussi donc, pour vos propos, donc, François Blanc. Et puis je vous renvoie aussi à un ouvrage qui s'appelle Le goût de la forêt au Mercure de France. Ce sont des textes, mais délicieux, choisis par Maud Simoneau. Et donc ça nous emmène dans des grands textes, c'est aussi bien du Kipling, de Shakespeare, Giono, Jacques Kerouac, donc tout sur la forêt, le goût de la forêt, c'est un véritable plaisir. Et là, on n'est plus du tout dans le côté utilitaire de la forêt.